Couture dans le Mid
avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Hey boy.
Radio X.
Ouais, ben c'est confirmé le décès de
l'acteur
Chuck Norris.
86 ans.
86 ans, puis là, j'en regardais un
peu. Il est vraiment mort, là.
C'est pas... À Hawaii.
Il est très, très mort.
Il est hospitalisé. Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Il a tourné une trentaine de films.
Oh oui, c'est un acteur très aimé. Beaucoup de films d'action.
Quel film?
Que des films d'action, d'après moi, là.
Moi, le film qui m'a plus marqué, c'est Missing in Action.
Ah oui?
Il y a eu plusieurs séries là, de La Fureur du Dragon 72. Il y avait Dodgeball.
Ben oui.
il fait Delta Force aussi.
Oui, ça c'était bon.
Quand on allait au club vidéo, là, Chuck Norris, il était tout là.
C'était partout.
Si tu voulais. Si t'avais une date puis tu voulais écouter un film de Chuck Norris, c'est sûr que tu scorerais pas.
Ça dépend.
C'est sûr. Non, tu scores pas tout.
OK, il fallait être plus que tu loues, mettons, il pleut des roses sur Manhattan.
Ah, c'est sûr.
OK.
Oh, ouais, non, c'est tranquille. Bon, notre expert cybersécurité est là, Steve Waterhouse. Steve, comment ça va?
Ah ben, ça allait bien jusqu'à temps qu'on apprenne cette nouvelle-là ce matin.
Oui.
Ah oui, t'es en deuil, là, Chuck et...
Oui, oui, parce que là, comme je disais tantôt, la guerre va pogner parce que là, Chuck n'est pas là pour arrêter ça.
Non, c'est ça. Lui, il arrêtait tout, hein?
Oui.
C'était l'enfer.
Puis, le monde qui apprenait que Chuck était pour s'en mêler, il changeait d'idée.
Ouais, mais...
Un peu comme quand Chuck coupait les oignons, c'est pas lui qui broyait ses oignons.
Non, fait
c'est à peu près ça, la réalité.
Exactement. Mais ceux qui se rappellent, là, en 72, il y a La Fureur du Dragon avec Bruce Lee.
Oh oui, oui, oui.
Puis il faisait
oui.
des comment t'appelles ça, là, des nunchucks?
Des nunchucks.
Ouais, des nunchucks, oui.
Ah, puis non, mais lui, il a introduit les arts martiaux dans les films aux États-Unis. Là, parce qu'avant ça, c'était comme rare, là. Bruce Lee, c'était quelqu'un aussi, là, au niveau des arts martiaux.
Oui.
Absolument. Puis ça, c'est des... Tu sais, c'était l'art, l'art pur, justement, des arts martiaux qui se plaçait sur la place publique. Tu sais, ils ont fait découvrir ça un peu. Avant ça, c'était isolé dans certains aspects.
Exact.
Puis là, eux, avec à l'amenant au grand écran, ben c'est oui, ils se sont fait connaître. Puis ils ont fait connaître les arts martiaux. Je crois qu'ils ont davantage publicisé. Puis il y en a beaucoup plus qui ont contribué à ça. Là.
Exactement. Bon, sautons dans cybersécurité. Là, il y a beaucoup d'attaques qui viennent de l'Iran.
Et oui, c'est inévitable. Puis c'est pas d'hier, hein, les gars. Tu sais, il y en a qui commencent à. Ils regardent ça à cause que le contexte s'anime au Moyen-Orient. Là, ils sont tous là à dire, ben là, il y a des attaques qui vont arriver. Non, il y a des attaques qui continuent de se lancer à partir des groupes de proximité avec les services de renseignement iraniens qui sont proches de la garde républicaine islamique et qui continuent le cyberattaque qu'ils ont fait l'année passée puis qu'ils ont fait il y a 5 ans. Mais là, ils ont un objectif plus clair parce qu'il y a un contexte de conflit. Mais là, c'est de nous faire suer puis de faire en sorte que ça va faire mal à l'économie principalement israélienne et américaine. Mais là, on a vu hier un message qui a été passé puis ratifié par un paquet de nations, le Japon, c'est-tu la Suède que j'ai vu passer, me semble, mais que l'Angleterre, la France, tout le monde veut que le détroit de Hormuz reprenne ses activités. Et le Canada a rentré aussi là-dedans puis dire, hey, nous autres aussi, on veut participer puis on veut que ça arrête. Fait que là, à partir de ces éléments-là, tu sais, c'est en mouvement, c'est en négociation. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même dans le cyberespace des actions concrètes qui sont faites pour faire changer, évidemment, de bord la situation d'un côté comme de l'autre.
Ouais.
La plus grosse attaque qui a eu lieu, c'est la semaine dernière, contre un conglomérat biomédical américain qui est Stryker. La compagnie Stryker œuvre dans 79 pays. Ouais. Et ils ont trouvé le moyen de compromettre un compte qui gère tout l'inventaire informatique de cette compagnie-là, puis ils ont été capables d'activer la commande effacée sur les 200 000 pièces d'équipement qui étaient gérées. Effacer, je dis bien, là. Pas juste faire un arrêt de service ou faire un rançon logiciel. Effacer le contenu. Ça, c'est téléphone, tablette, laptop, n'importe quoi. Puis ça, après coup, ils ont avoué qu'ils auraient retiré de cette compagnie-là une quantité de 50 000 gigaoctets d'informations.
De données.
Ça, ouais. De données. Puis ça, tu fais pas ça dans une fin de semaine à cette quantité-là. Là. Ça veut dire qu'il était dans la compagnie depuis un certain temps.
Exactement. Et là, après ça, c'est le chantage, hein? Parce que là, vous voulez avoir vos données, bien là, vous allez nous payer. Vous allez transférer des cryptos à quelque part?
Non, mais là, il y a une distinction. C'est pour ça que je te dis, c'est pas une affaire de rançon logicielle. Ils vont se servir, je crois que les données qui ont été perçues vont être revendues, mais pas ouvertes comme une rançon, les gens demandent, mais bien vont s'en servir dans ailleurs sur le marché puis à des clients très spécifiques. Parce qu'ils veulent pas non plus commencer à se lancer. Ils veulent vraiment faire mal à l'économie, dans ce cas-là, des États-Unis.
Oui, exact.
Puis, tout comme avec d'autres organisations ailleurs.
Donc, tu dis, c'est pas nécessairement, ils veulent pas nécessairement de l'argent en retour, mais eux autres, ils veulent démolir. Ils font partie de l'arsenal de guerre de l'Iran.
Oui, parce qu'ils l'ont déclaré. Vous êtes venus chez nous nous faire du mal. Check it bien. On va aller faire du mal chez vous. Puis c'est comme ça, il faut le percevoir, parce que, l'Iran n'a jamais rien demandé à personne. Puis là, c'est vraiment un acte qui a été dans la direction de ce pays-là. Oui, il développait un programme d'armes nucléaires. On s'entend que c'est pas tout le monde qui était d'accord. En juin dernier, les Américains ont mené une grande opération pour être en mesure de nullifier encore une fois, parce qu'ils l'ont fait il y a plusieurs années avec, rappelez-vous, le logiciel Stuxnet qui avait été composé par les Américains et les Israéliens, puis qui ont rentré dans le laboratoire de développement des armes nucléaires. Puis le logiciel a fait en sorte qu'il a saboté un paquet d'équipements dans ce laboratoire-là, et d'une façon très subtile. Encore une fois, il n'y a pas d'attribution officielle qui a été, mais les conclusions de tout le monde dans l'industrie pointent à ce que ça soit un développement par les Américains et les Israéliens, et que ça a fait l'objet de vraiment beaucoup de recherches, mais que ça avait fait la job à ce moment-là.
Ouais.
Mais ils ont repris le travail, et c'est ça l'action cinétique, donc en déposant des bombes sur les laboratoires en juin dernier, que ça a fait le travail. Mais là, c'est qu'on apprend aussi, regardez bien ça, les gars, dans l'actualité, là, il y a des failles dans l'administration américaine qui est en train de se rendre au grand jour. On a eu le dirigeant du contre-terrorisme là, qui a donné sa notice. Là, il a dit « Bye, moi, je suis pas d'accord avec vos actions avant-hier.
Oui, » oui.
Puis là, je viens de lire tout à l'heure la chef du renseignement, Tulsi Gabbard, qui a témoigné hier au Congrès.
Oui, elle s'est fait poser pas mal de questions, elle.
C'est normal, puis c'est ça son rôle. Mais là, je lis là, qu'il y a des rumeurs qu'elle aussi était en train de signer sa lettre de démission.
Là, ça commence, les têtes commencent à tomber autour de,
ben,
de Trump.
Ça, c'est oui. Puis déjà là, dès le début des hostilités, le 28 février, Tulsi Gabbard, donc la chef du renseignement américain, et le vice-président avaient vocalisé qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces actions-là. Puis le vice-président, je ne sais pas si vous avez noté, on le voit pas depuis un certain temps, les amis.
Monsieur Vance?
Ouais. Fait que,
on voit beaucoup Marco Rubio. Oui, hein? Oui. On voit beaucoup Marco Rubio, là, de plus en plus, là.
Ben oui, mais ça, c'est un, comment je te dirais, donc, c'est le bras droit vraiment de la pensée de ce 47e président-là. Lui, les deux sont en symbiose.
Ouais.
Mais il reste par contre que qui reste pour après ça dire, Monsieur le Président, je pense que vous allez dans le champ. Il n'y en a pas. Les gens sont tous là à l'entour de lui, puis ils disent tous qu'il a raison. Mais d'accord, ça, c'est une observation personnelle. Là, je ne suis pas politicologue, mais il reste toujours bien que. Portez attention. Là, je pense qu'il y a des gros mouvements personnels.
Oui, il y a des manœuvres. Il y a Pam Bundy qui pourrait sauter aussi en venant. Parce qu'elle a été appelée à témoigner le 14 avril dans l'affaire de Epstein, là.
Les affaires d'Epstein, là, ça, c'est une distraction massive. Là, je veux dire, on verra comment ça va aller. Mais il reste fondamentalement pour la continuité ou l'arrêt des hostilités envers l'Iran. Bien, s'il y a des grosses têtes d'affiche qui disparaissent pour ne pas dire « Hey, arrêtez, ça n'a pas de sens », ça va continuer pour faire combien de temps? Fait que c'est ça qui est un petit peu...
Ben moi, je pense qu'il pourra pas... ce qu'on voit, c'est qu'il pourra pas continuer encore très longtemps. Là.
Ouais, j'espère que non, en tout cas, là, parce que ça sert pas grand monde. Là.
Non, exactement. Mais ce que tu veux dire, c'est que les Américains se font attaquer, informatique...
Oui. Attention, pas juste les Américains, ils sont venus nous visiter aussi au
Hydro-Québec,
Canada.
Hydro-Québec, là...
Ça, c'est rien, là. Sérieux, là, c'est... Quand on dit qu'une campagne de spam pour tenter d'amener les gens vers des sites ou de la fausse économie en promettant toutes sortes d'affaires, il y en a eu toujours des campagnes comme ça, c'est pas grave. Moi, ce que je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a eu 16 compagnies en début de semaine que leur site web a été vandalisé. Quand on parle vandalisé, ça veut dire la première page du site web, elle n'affiche plus évidemment la compagnie, qu'est-ce qu'elle a offré, mais il y a un manifesto politique qui est affiché là.
Mm-hmm.
Puis ça fait partie, genre, d'école de « prouve-moi que tu es un hacker, bon, OK, je vais aller faire apposer votre manifesto politique sur les sites web de ce pays-là. » Fait qu'au Canada, il y en a eu 16 compagnies comme ça qui ont subi leur sort. Ça a déjà arrivé dans le passé, ben des fois au Québec. Mais c'est pour dire que ça a des actions positives. Il y a des attaques de denis de service, donc pour empêcher que les services soient disponibles. Twitter en a subi des coups cette semaine, Microsoft Office aussi, Microsoft 365, excusez. Fait que donc, il y a des éléments comme ça que les centres de données qui ont été physiquement attaqués dans le Moyen-Orient. J'aurais juste à dire aux gens, aux auditeurs, avez-vous revu vos évaluations de la menace et des risques? Et avez-vous refait une vérification de vos copies de sauvegarde? Est-ce qu'elles sont en lieu sûr? Puis fonctionnent-elles si jamais le pire arrive? Parce que c'est ça ce qui nous attend dans le détour. Parce qu'avec l'histoire, je vous ai dit, de Stryker, modélisez ça, allez dans un univers hypothétique juste pour une seconde, puis pensez si votre petite ou moyenne entreprise, vous êtes capable de survivre, si demain matin, le même genre de scénario s'applique parce que votre logiciel de gestion de flotte informatique, quelqu'un trouve le mot de passe puis il zappe vos appareils. Ça, c'est un genre de scénario-là que j'apporte dire aux gens...
Mais s'ils rentrent chez Stryker, là, ça veut dire qu'ils sont capables de rentrer à bien des places?
Ben, tu sais-tu comment ils ont rentré? C'est vraiment un mot de passe qui n'était pas bien géré, qui était faible puis qui n'avait pas de deuxième facteur d'authentification qu'on a su. Fait que c'est là que toute la game se joue. Fait combien de fois qu'on en parle de ces petits détails-là? C'est de la cyberhygiène de base.
Desjardins, Dysnat, là, tu sais, la plateforme de transaction courtage en ligne, là, ils ont, depuis deux semaines, forcé la deuxième identification, ce qui n'était pas obligatoire.
Calisti, excuse-moi, là, mais...
non, mais ils viennent de se réveiller. Ben oui, puis il y a eu de la fraude, là.
Oui, je sais, exactement. Mais tu sais, ce qui est difficile dans des grandes institutions comme avec Desjardins, c'est que... Eux autres, il faut qu'ils conjuguent avec des vieux systèmes patrimoniaux et qu'est-ce qu'on doit faire dans la modernité. Fait que on est là, on constate que, hey, enfin, ils arrivent dans le 21e siècle, puis ils mettent un deuxième facteur d'authentification, mais ils ont dû travailler en s'il vous plaît, en arrière-plan, pour arrimer tout ça et que ça soit vraiment efficace dans l'avant-plan.
Steve, pense-y, là. 2019, c'est la fraude, la grosse fraude. C'est 2019 chez Desjardins? Oui.
Juin 2019.
Puis là, on a commencé à faire la deuxième authentification. 2026, chez Dysnat, on a commencé à forcer ça à tout le monde.
Et voilà. Fait que, tu sais, c'est pas les seuls en passant. On a un cas typique, mais il y a beaucoup d'autres organisations que c'est encore comme ça. Qu'il n'y en a pas de deuxième facteur, puis qu'il en manque de la sécurité de base. Mais c'est souvent des choix économiques, ou bien ils se disent, bien, on regarde statistiquement, on ne mettra pas 100 000 parce qu'on n'a pas eu 100 000 de perte. Tu sais, c'est le genre de rationnel que j'entends souvent. Fait que là, quand il arrive une perte, il arrive une fuite d'informations, ça a coûté 3,2 millions. Ah, ben là, oui, on va mettre là, 2 millions pour, et 3 millions pour régler ce problème-là. Puis après ça, on n'entendra plus parler. Tu sais, c'est des façons de réfléchir comme ça, là, que malheureusement, ça ralentit la prévention. Puis ils ne mettent pas en amont, c'est-à-dire ces éléments-là.
C'est ça. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui rentre. Et là, tu as des IA argentiques. Appellent, c'est des
agents, oui.
Ouais, des agents, des robots conversationnels qui peuvent venir chercher beaucoup de données. Là. Donc là, tu es obligé de te protéger contre une nouvelle technologie parce que toi, tu as peut-être rentré dans l'IA, mais tu n'as pas prévu, il y a des portes qui s'ouvrent et qui ne se ferment pas.
Oui, exactement. Puis ça, c'est un rapport de la grande compagnie française Thales, là, européenne, je devrais dire.
C'est assez gros, là, Thales. Là.
Bon, oui, c'est ça. Là. Puis, tu sais, ils sont impliqués dans les trucs de défense, etc. Puis là-dedans, ce qui est plate, c'est qu'encore une fois, il y a une mécompréhension de qu'est-ce qui rend possible à l'IA de faire ces genres de documentation-là. Puis ça prend une proportion là, gargantuesque, là, pour ne pas dire gigantesque, parce que tout le monde a ça sur le bout des lèvres. Là. Oh, on veut une IA, on veut faire quelque chose avec l'IA, mais ils ne savent pas quoi, comment que l'IA travaille. Fait qu'ils veulent juste l'implanter puis être à la mode, entre guillemets. Mais il n'y a toujours pas de ligne directrice officielle pour dire, hey, implante-le puis mets ça comme paramètre, ça va être sécuritaire. La semaine dernière, là, l'IA de Microsoft qui s'appelle Copilot, il n'était pas supposé d'aller voir de l'information quand c'est dans des endroits qui est réputé sécuritaire puis exclusif pour un client, etc. Bien, l'IA de Microsoft, Copilot, j'insiste à dire, il a jumpé ces barrières-là. Les règles, ils ont contourné, puis il y a eu accès à de l'information privilégiée que Microsoft n'avait pas d'affaire à voir. Alors ça ramenait en avant-plan, OK, si... Un petit. Là, c'est avec ce produit-là, mais on sait qu'il y en a des sortes de saveurs d'IA. S'il est capable de faire ça, bien, combien d'autres sont capables de contourner les règles en place, puis après ça, compromettre qu'est-ce qu'on dit qu'ils ne devraient pas sortir au grand public?
Donc, ça veut dire que les IA conversationnelles, même si on des balises, pourraient décider par elles-mêmes de se reprogrammer puis de
dépasser balises. Ça dépend comment ce qui a été programmé. Tu sais, personne n'est capable de... En tout cas, moi, j'en parle souvent avec bien des professionnels. Puis personne n'est capable de me dire à 100 %, Il est programmé comme ça. S'il va trop loin, il arrête. Nous, on va le savoir. Ouais. Non, personne n'est capable de voir ça.
Autrement dit, là, t'as des entreprises qui permettent à leurs employés d'aller avec l'IA, mais ils connaissent pas l'arrière, toute la possibilité que l'IA peut venir jouer dans les paramètres de l'entreprise. Donc, on peut carrément se ramasser avec des attaques et des vols de données incroyables.
Puis les gens, malheureusement, ils vont s'en rendre compte quand il est trop tard, quand le mal est fait.
C'est ça. Non, c'est... ça va vite, là. Ça va très vite, là.
Et très vite, oui, justement, parce que c'est ça, moi, qui m'anime et que tant qu'à travailler avec quelque chose de vraiment instable, là, moi, tu sais...
Touche à rien, laisse comme ça.
Oui, j'attends vraiment avant que ça... Tu sais, je consulte l'IA, je sais pas... Tu sais, j'en profite parce que c'est un outil, ça donne certains résultats, mais j'y vais à très petits pas pour... savoir qu'est-ce qui est la résultante, parce que j'en ai quatre autour de moi, puis je m'ostine avec eux autres, parce que des fois, je lui pose des questions assez précises, ça répond à un paquet de niaiseries, puis là, après ça, quand je lui pitch la référence réelle, « Ah oui, je m'excuse, vous avez raison, j'avais pas considéré ceci. » Va-t'en, là, tu sais.
Mais ça se peut-tu que... Mettons, moi, ChatGPT, je vais là au Claude Anthropique, juste, tu sais, un compte simple où je pose des questions, puis je reçois des réponses, mais elle peut-tu venir jouer dans mes affaires?
Ben, comment est-ce qu'il est, premièrement, il est arrangé comment cet outil-là? Comment est-ce que l'outil, elle est autorisée à aller partout ou juste sur un petit environnement dédié? Personne ne le sait. Fait que c'est pour ça que moi, j'assume que ça peut aller partout.
Donc, un peu comme TikTok faisait ça. Là, ils venaient jouer dans tes contacts puis ils peuvent transférer de la data à l'autre bord. Là.
Et voilà. C'est mon genre d'approche que c'est pour ça que je suis très, très, très prudent.
Fait que toi, tu dirais, mettons, un employeur à ses employés sur les ordinateurs de l'entreprise, aller pas sur des agents comme ça. Des
conversationnels.
Ben, tant qu'il sait pas comment ça marche, faites attention. Moi, je le dis à tous mes clients, prenez garde. Si vous insistez, vous voulez vraiment, vraiment l'utiliser, prenez garde, les données, ça se pourrait qu'ils soient épiés. Et si on a des données sensibles, puis vous avez une fuite d'informations, soyez prêts à expliquer. Ben
c'est arrivé là, que sur les requêtes de recherche d'informations de personnes, ça s'est ramassé sur le web. Là. Donc, tu posais une question très personnelle à ChatGPT, puis ta requête s'est ramassée sur le web.
Fait que comment tu peux expliquer ça dans l'enquête? Puis là, même, je te dirais, quand on dit enquête, c'est les commissariats à la vie privée, là, canadiens comme québécois.
Ouais.
Ils sont pas au courant plus, eux autres, comment ça marche. Là.
Non.
Fait que là, ils font des constats, mais là, moi, j'entends vraiment le silence de ces commissaires-là qui ne portent pas plus de messages de précaution. Puis on dirait, eux autres aussi, ils sont submergés. Je sais qu'ils essaient de mettre en place des certaines balises, avoir un genre de manuel, comment qu'on peut mettre les contraintes pour que ça soit fiable, que ça soit sécuritaire.
Exact.
Mais ils sont dépassés aussi par la vitesse
à laquelle ça arrive. Ils sont dépassés. On l'a vu aussi en Alberta, tu sais, la fusillade qu'il y a eu là, par...
C'est en Colombie-Britannique, me semble ça.
C'est dans le nord de la Colombie-Britannique. OK, c'est ça. C'était proche des lignes d'Alberta. Mais la personne avait fait des demandes à ChatGPT. Avec des questions, très claires. L'information n'a pas été transférée aux autorités non plus.
Et c'est là que tu as un problème éthique avec les entreprises, parce que, mettons Facebook, là, juste pour nommer celui-là.
Je questionne Facebook sur je veux faire un attentat, puis c'est quoi les clés?
Facebook. Mettons, eux autres vont voir tes habitudes de questionner, mais aussi d'aller voir d'autres phénomènes similaires au sujet. Puis après ça, couplé avec tes recherches que tu fais ailleurs sur le net, là, tu as un profil toujours qui se prépare, puis à ce moment-là, c'est disponible. Mais là, est-ce que systématiquement, ces plateformes, on va les nommer toutes, mais tu sais, on rend juste Facebook dans l'exemple, est-ce que systématiquement, ces agences-là, ces ressources-là, ces plateformes, devraient signifier des recherches comme ça vers les autorités? Parce que si on est un étudiant en criminalité, on va aller piger ces informations-là, on va s'inspirer des histoires, etc. Ça veut-tu dire que chaque étudiant va falloir qu'il y ait une vérification de fiabilité pour dire « non, il est pas tendancieux, lui-là. »
Mais moi,
ça n'a aucun sens.
Mettons, moi, je veux fabriquer une bombe pour faire sauter ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, mon profil peut être vu comme étant un peu...
suspect, louche, à risque. Là, les CF18 vont venir te voir, tu sais.
Ouais. Non, mais on n'est pas sorti de l'auberge, non, non. C'est ça qu'on comprend, là.
Non, non. Tu sais, je fais une joke, les CF-18, par rapport à l'aéroplan qui a été compromis, puis il y avait deux identités. Pis,
exact.
OK, le protocole, il est peut-être en place pour des affaires comme ça, mais on peut-tu s'entendre que... Attends un peu, check donc un petit peu plus loin avant de coller des avions qui coûtent une méchante totale à l'heure à déplacer, plus les combien de personnes qui ont été paralysées à l'aéroport. Puis là, j'ai entendu la rumeur comme quoi que même les services policiers voulaient bloquer tout le trafic autour de l'aéroport de Montréal. Hey, voyons donc, t'as peu.
On n'est pas sorti de l'auberge, Steve. Puis là, on pourra en parler, mais le temps, il nous manque.
Bien, on s'en reprend.
On s'en reprend. Merci beaucoup de tes lumières. À la prochaine, Steve.
Bon week-end. Waterhouse.
Salut, bye.
Expert en cybersécurité. Ouais, je te voyais faire des
signes. Ben là, oui.
Ouais, c'est ça.
Le temps file.
Voilà. Après la pause, la pause, on va poser une question.
Ouais, 88-670-9098, c'est vendredi. Et tu sais que depuis une quinzaine de minutes, nous sommes officiellement entrés dans l'équinoxe du printemps, Pierre.
Printemps.
C'est le printemps, là, on est dedans. Là.
L'hiver est terminé.
Moi, je suis assez heureux. C'est vendredi, puis le printemps arrive un vendredi. Moi, je capote. Bref, 88-670-9098, ça va pas super bien au niveau économique. Les gens ont de moins en moins d'argent. Le climat mondial politique
moi,
est
difficile.
Moi, je pense que
c'est 50% des gens qui en arrachent.
Est-ce que vous avez mis une croix sur vos projets de vacances?
Ben moi, je veux savoir.
C'est-à-dire, c'était quoi vos projets? C'est quoi vos projets? Puis est-ce que vous avez été obligé de reviser vos projets?
Toi, tu vas où?
Moi, j'ai revisé mon projet.
Ah oui?
Ouais.
OK.
Parce que j'aurais aimé ça partir en VR, mettons, puis descendre vers les États-Unis, mais j'ai fait un calcul, d'ailleurs, avec l'IA pour l'essence.
Puis ça va te coûter un bras?
Oh, les deux bras.
Ouais, mais tu peux dormir dans un parking de Walmart.
Je comprends. Mais je veux pas juste faire ça, là. Fait que j'ai revisé.
OK.
Reviser le projet parce que manque de fonds à un moment donné. Là.
Moi, je vais aux États-Unis cet été. Ouais.
OK.
Je m'en vais dans le coin de Denver. Je m'en vais en Utah. Je m'en vais faire des rides.
Courageux.
Ben oui, mais tu vois, sur ma carte de crédit, là, mes points avion, là, ils étaient loadés.
Ah, OK, c'est ça.
Hein?
Un gars qui a des points, c'est pas pareil.
J'accumulais, moi, mes affaires.
C'est bien, ça. C'est quoi vos projets de vacances en cette journée du printemps 88-670-9098?
Allez-vous en Europe?
Ouais.
Je sais que Camille Bergeron...
L'Europe est accessible, quand même.
Nous a parlé de l'Europe. Très populaire, là.
Là, avec le climat mondial, est-ce que ça vous freine? Il y a tout ça aussi.
Ouais, exact. On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.